je n'aurais pu rêver validation plus spectaculaire de mon hypothèse que l'accueil réservé à ce papier. Le phénomène des jobs à la con a fait l'effet d'une bombe. Ironie du sort, juste après sa parution, ma compagne et moi avions décidé d'aller passer 2 semaines dans une cabane au fin fond de la campagne québécoise, sans autre compagnie que l'un et l'autre, et un sac rempli de bouquins. Et comme nous nous étions fait un devoir de dénicher un endroit sans connexion Wi-Fi, c'est sur mon téléphone portable que j'ai dû suivre tous les développements de l'affaire. Une position passablement inconfortable. L'article a presque aussitôt fait le buzz. En l'espace de quelques semaines, il a été traduit dans près d'une quinzaine de langues. L'allemand, le norvégien, le suédois, le français, le tchèque, le roumain, le russe, le turc, le letton, le polonais, le grec, l'estonien, le catalan et le coréen. Il a également été repris dans de multiples journaux à travers le monde, de la Suisse à l'Australie. La page de Strike a reçu plus de 1 million de clics, au point qu'elle ne cessait de planter à cause de la surcharge. Les blogs ont poussé comme des champignons, tandis que les sections de commentaires se remplissaient de confessions de travailleurs en col blanc. Les gens m'écrivaient pour me demander des conseils, ou bien pour me dire que je leur avais donné le courage de lâcher leur boulot et d'aller trouver du sens ailleurs. Voici une réponse enthousiaste parmi les centaines que j'ai recueillies. Elle est tirée de la rubrique commentaires du journal australien Canberra Times. Ma parole, vous avez tapé dans le mille. Je suis avocat d'affaires, avocat conseil fiscaliste pour être précis. Je n'apporte strictement rien à ce monde et je suis complètement déprimé en permanence. Je déteste quand certains ont le culot de me dire « Ben alors, pourquoi tu fais ça ?» Évidemment, ce n'est pas si simple. Pour l'instant, si je veux pouvoir me payer une maison à Sydney et élever mes futurs enfants, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'apporter ma contribution au 1%. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on produit sans doute autant de jours qu'autrefois en 5. Pourtant, à cause de l'avidité généralisée et du syndrome de la fourmi travailleuse, omnubilée par la productivité, on nous demande encore de trimer pour accroître les profits d'autres personnes au lieu de nous laisser nous consacrer à nos propres projets pour lesquels nous ne sommes pas payés. Peu importe qu'on croie à la théorie du dessin intelligent ou à celle de l'évolution, les humains n'ont pas été créés pour travailler. Donc, tout ça, pour moi, ce n'est rien d'autre que de la boulimie pure, entretenue par la hausse délirante des prix des produits de base. Une autre fois, un fan anonyme m'a écrit qu'un groupe s'était spontanément constitué pour faire circuler mon papier au sein de la communauté des services financiers. Rien que ce jour-là, affirmait-il, il avait reçu 5 mails avec l'article en pièce jointe, signe indubitable que la plupart des gens qui peuplent les services financiers n'ont pas grand-chose à faire. Bien sûr, tout cela ne nous disait pas combien de personnes pensaient elles-mêmes avoir un job à la con. Certaines faisaient peut-être suivre le texte à des copains en guise de clin d'œil appuyé. Mais les preuves statistiques n'ont pas tardé à apparaître. 1 an et demi après la publication de l'article, le lundi 5 janvier 2015, c'est-à-dire le jour où la majorité des Londoniens reprenaient le travail après les fêtes de fin d'année, plusieurs centaines de placards publicitaires ont été démontés dans les rames du métro et remplacés par une série d'affiches reprenant des extraits de mon papier en mode guérilla marketing. Les phrases choisies étaient les suivantes. Des populations entières passent toute leur vie professionnelle à effectuer des tâches dont elles pensent secrètement qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'être. C'est comme si quelqu'un s'amusait à inventer des emplois inutiles dans le seul but de nous garder tous occupés. Cette situation provoque des dégâts moraux et spirituels profonds. C'est une cicatrice qui balafre notre âme collective. Et pourtant, presque personne n'en parle. Comment parler de dignité au travail si l'on estime en son fort intérieur que son job ne devrait pas exister? Cette campagne d'affichage ayant ressuscité le débat dans les médias, j'ai même fait une brève apparition sur la chaîne Russia Today, l'Institut de sondage YouGov a décidé de tester mon hypothèse. L'étude menée auprès des Britanniques utilisait les termes mêmes de l'article de Strike. Fait incroyable à la question « Votre emploi apporte-t-il quoi que ce soit d'important au monde ?» Plus d'un tiers des personnes interrogées, 37%, ont dit être convaincus que ce n'était pas le cas. 50% ont répondu par l'affirmative et 13% se sont déclarées indécises. C'était près du double de ce que j'avais anticipé. En effet, j'imaginais que la proportion de jobs à la con avoisinait les 20%. Un peu plus tard, un autre sondage conduit aux Pays-Bas a donné des résultats presque identiques, en fait légèrement plus élevés, puisque 40% des travailleurs néerlandais ont déclaré que leur job n'avait aucune raison valable d'exister. Non contente d'avoir été validée par la réaction du public, mon hypothèse l'était donc aussi par des études chiffrées, et ce, de manière éclatante. Nous nous trouvions manifestement en présence d'un phénomène social majeur qui n'avait presque jamais été étudié scientifiquement. Pour beaucoup, le simple fait d'ouvrir la discussion sur ce sujet s'est révélé cathartique. Indiscutablement, une exploration plus poussée s'imposait. À ma connaissance, un seul ouvrage en tout et pour tout a été publié sur le thème des jobs à la con, « Boulot de merde », écrit en 2015 par les journalistes parisiens Julien Brigaud et Olivier Siran, qui m'ont dit avoir été directement inspirés par mon article. C'est un bon livre, mais il traite d'un éventail de questions assez différents du mien. J'entends proposer ici une approche un peu plus systématique que dans mon article de 2013. Celui-ci, destiné à un magazine qui s'intéresse aux tendances révolutionnaires, mettait l'accent sur la dimension politique du problème. En fait, il s'inscrivait dans une réflexion plus large que je menais à l'époque, soulignant que l'idéologie néolibérale qui dominait le monde depuis Thatcher et Reagan, le libre marché, était tout l'inverse de ce qu'elle prétendait être. Sous des dehors de programme économique, elle n'était rien d'autre qu'un projet politique. Si j'en étais arrivé à cette conclusion, c'est parce qu'elle m'était apparue comme la seule plausible pour comprendre le comportement des détenteurs du pouvoir. En effet, d'un côté, la rhétorique néolibérale ne parle que de laisser libre cours à la magie des marchés et érige l'efficacité économique au rang de valeur suprême. Mais de l'autre, les politiques de libéralisation se sont traduites partout par une croissance ralentie, sauf en Inde et en Chine, un progrès scientifique et technologique en berne et surtout, pour les jeunes générations de bien des pays riches, la perspective d'une existence moins prospère que celle de leurs parents pour la première fois depuis des siècles. Or, confrontés à ces résultats, les partisans de l'idéologie de marché continuent de plaider pour l'administration de doses toujours plus fortes du même remède, une prescription que le personnel politique applique à la lettre. Cela me paraissait bizarre. Si une entreprise privée embauchait un consultant pour pondre un business plan, et que ce plan eut pour conséquence une baisse brutale des profits, le consultant serait viré. À tout le moins, on lui demanderait de proposer autre chose. Avec les réformes néolibérales, cela ne semblait jamais se passer comme ça. Plus elles échouaient, plus elles étaient reconduites. Je n'y voyais qu'une seule justification logique. Elles n'étaient pas dictées par des impératifs économiques. Alors par quoi ? Selon moi, il fallait chercher la réponse dans la mentalité de la classe dirigeante. Presque tous les décideurs avaient fréquenté les campus universitaires dans les années 1960, lorsque ces derniers se trouvaient à l'épicentre de l'agitation politique et ils étaient fermement déterminés à empêcher qu'une telle chose se reproduise. Certes, voir chuter les indicateurs économiques les inquiétait un peu. Mais au-delà, ils étaient surtout ravis d'assister au transfert croissant de richesses et de puissance vers les plus fortunés, ainsi qu'à la destruction quasi complète de toute base organisationnelle capable de défier leur pouvoir sous l'effet combiné de la mondialisation, de l'assèchement des forces syndicales et de la création d'une main-d'œuvre aussi précaire que surmenée. À cela s'ajoutait un vigoureux soutien de façade aux mots d'ordre hédonistes et aux appels à la libération individuelle que l'on entendait dans les années 1960. Une attitude bientôt connue sous le nom de libéralisme social, conservatisme fiscal. Ce n'était sans doute pas très concluant sur le plan économique, mais sur le plan politique, il n'aurait pu rêver mieux. En tout cas, Il ne voyait guère de raison de changer de cap. Dans mon article, je ne faisais donc que prolonger cette idée. Si vous voyez quelqu'un qui, au nom de l'efficacité économique, agit d'une manière économiquement absurde, par exemple en payant grassement des gens à ne rien faire, commencez par vous demander, comme on le faisait dans la Rome antique, « Cui bono ?» À qui cela profite-t-il ? Et selon quel mécanisme ? Ce n'était pas une analyse conspirationniste. Au contraire, elle était plutôt anti-conspirationniste. Ce que je demandais, c'était « Pourquoi ne prend-on aucune mesure ?» Les fluctuations économiques ont toutes sortes de causes, mais qu'elles viennent à créer des difficultés pour les riches et les puissants, et ces derniers ne tarderont pas à faire pression sur les institutions afin qu'elles interviennent et règlent le problème. C'est pour cette raison que, au lendemain de la crise financière de 2008-2009, les grandes banques d'affaires ont été renflouées, mais pas les citoyens ordinaires détenteurs d'un prêt immobilier. De la même façon, comme je vais le montrer ici, la prolifération des jobs à la con s'explique par toute une variété de facteurs. Mais la question centrale de mon papier était « Pourquoi ne voit-on personne intervenir, ou conspirer, si vous préférez, pour y remédier ?» Dans cet ouvrage, je veux aller beaucoup plus loin. Je suis convaincu que le phénomène des jobs à la con peut nous ouvrir les yeux sur des problèmes sociaux bien plus vastes. Nous devons nous demander comment il se fait que tant de nos travailleurs aient à suer sang et eau pour effectuer des tâches qu'eux-mêmes jugent vaines, et surtout que cet état de fait paraisse normal, inévitable, voire souhaitable à tant de gens. Plus étrange encore, vous avez des personnes qui, dans l'absolu, estime justifié d'accorder de plus gros salaires et davantage d'honneur et de reconnaissance à ceux qui occupent des jobs oiseux qu'à ceux dont l'activité est utile. Mais pourquoi se sentiront-elles déprimées et malheureuses si elles-mêmes se retrouvent dans des postes où elles sont payées à ne rien faire, ou du moins rien qui leur paraisse bénéficier à autrui d'une quelconque manière ? À l'évidence, cette situation met en jeu tout un fatras d'idées et d'impulsions contradictoires, et mon premier objectif ici sera de tenter de démêler cet écheveau. Pour cela, nous nous poserons des questions très concrètes. Par exemple, comment, au juste, les jobs à la con adviennent-ils ? Mais aussi des questions d'une plus grande profondeur historique, comme quand et comment avons-nous commencé à penser que la créativité devait nécessairement être un processus pénible. Ou bien, comment diable cette idée qu'il est possible de vendre son temps nous est-elle venue ? Ce qui nous amènera à nous interroger plus fondamentalement sur la nature humaine. Ce livre entend également poursuivre un but politique. J'aimerais qu'il soit comme une flèche visant notre civilisation en plein cœur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la direction que nous avons prise. Nous sommes devenus une civilisation fondée sur le travail, mais pas le travail productif, le travail comme fin et sens en soi. Désormais, les hommes et les femmes qui ne travaillent pas plus dur qu'ils ne le souhaiteraient, dans un emploi qui ne leur procure pas particulièrement de plaisir, nous apparaissent comme mauvais, indignes de l'amour, des soins et du soutien de leur communauté. C'est comme si nous avions collectivement consenti à notre propre asservissement. Et lorsque nous prenons conscience de consacrer la moitié de notre temps à des activités parfaitement inutiles, voire contre-productives, généralement accomplies sous les ordres d'une personne qui nous est antipathique, notre première réaction est de ronger notre frein en songeant à ceux qui ont la chance de ne pas être englués dans ce piège. Résultat, la haine, le ressentiment et la suspicion sont devenus le ciment de notre société. C'est une situation désastreuse. Et mon vœu le plus cher est qu'elle prenne fin. Si cet ouvrage peut y contribuer un tant soit peu, il aura valu la peine de l'écrire.